Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vivre avec vous le prochain quart d'heure. Et nous ne serons pas seuls puisque nous sommes en excellente compagnie avec Jacques Kramer et Aline Carnoche. Bonjour Jacques et Aline.
Bonjour.
Je
Bonjour.
Me permets de vous souhaiter une bonne année.
Et réciproquement, ainsi pour vos auditeurs.
Merci beaucoup.
Et une bonne année à votre théâtre. L'année commence bien puisque vous reprenez donc à Mainvilliers, Opale, une enfant d'ailleurs, un spectacle complètement étonnant sur un personnage stupéfiant, Opal Whiteley, dont j'ai là sous les yeux le journal écrit à l'âge de 6 ans. On se dit, c'est pas possible, elle a écrit son journal à l'âge de 6 ans et elle écrit comme un livre, si j'ose dire.
Alors, je vais laisser Aline répondre, puisque c'est elle qui a mis la main sur ce document unique.
Comment, Aline, vous l'avez découvert, Opal?
Oui, alors c'est grâce à une amie très proche, Françoise Kérizel, qui connaît très bien Martine Lévy, qui est l'éditrice, qui était l'éditrice, sa maison d'édition maintenant ne fonctionne plus, mais ses livres, on peut encore les trouver. Donc l'éditrice de La Cause des Livres, qui était un peu spécialisée dans des textes autobiographiques en quelque sorte. Et elle m'a parlé de ce journal en me disant, écoute, je crois que ça va t'intéresser. Et effectivement, quand j'ai lu ce texte, j'ai été tout de suite sous le charme de cette écriture et intriguée, et j'ai commencé à lire la préface, la postface, qui sont c'est très riche. À la fois la traductrice, l'éditrice ont fourni un travail de très grande qualité pour essayer de comprendre comment une enfant avait pu écrire un tel texte et quelle avait été sa vie. Et puis, passionnée par cette histoire et ce texte, je me suis procuré le livre de l'Américain Benjamin Hoff, qui est un journaliste et qui lui-même a enquêté aux États-Unis, en Oregon, et également d'ailleurs, ça l'a amené même à Chartres, je vous dirai pourquoi, sur Opal Whiteley.
Le livre s'intitule « La rivière au bord de l'eau, journal d'une enfant d'ailleurs ». Et pourquoi une enfant d'ailleurs ?
Alors, il y a plusieurs interprétations. Peut-être, Jacques, tu peux donner
dire
la tienne.
Dire tout de suite qu'elle a vécu dans les bois en Oregon, dans sa famille, une famille de bûcherons. Donc, c'est ça qui est étonnant, parce que le petit Mozart, il avait quand même Léopold.
Ah, quand même.
Mais elle n'avait pas ce de Léopold. Le père était bûcheron. Alors, c'était des gens qui avaient quand même des livres. La mère, apparemment, qui était un peu dérangée, mais elle lisait, elle faisait lire. Mais Opal, la petite fille, là, dès l'âge de 3 ans, a eu une invraisemblable pulsion d'écriture. Elle écrivait dès 3 ans, à coups de bâton, comme ça, tout le temps. Et elle a eu une soif de lecture et d'écriture venue... Non, c'est où ? Ça tient du miracle, là. Ça tient
d'ailleurs.
Du miracle. D'ailleurs, une enfant d'ailleurs. Alors, parce que c'était dans les bois, en Oregon, vous voyez.
Oui, on est au début du XXe siècle, c'est ça ? Elle est née en 1897.
Oui. Alors, c'était par ailleurs une enfant maltraitée, souvent battue par la mère et la grand-mère, mais qui a développé cette pulsion d'écriture d'une façon irrépressible. Et ça a failli être perdu, mais là, on joue la scène, justement, des retrouvailles du manuscrit. Tu veux peut-être le raconter ?
Alors, en fait, elle a appris à lire dès l'âge de 3 ans. Elle a commencé à écrire quand même un petit peu plus tard. Alors, il faut savoir que dans le texte en anglais, elle a une orthographe qui n'est pas complètement maîtrisée. Donc, c'est bien une écriture d'enfant. Avec des tournures un petit peu curieuses, beaucoup de répétitions. Et elle n'a pas écrit tout ce journal à 6 ans. Elle a commencé à 6 ans et elle a tenu ce journal jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais ce qui nous est parvenu, c'est la première année d'écriture. Donc c'est l'année entre 6 et 7 ans. Mais là, il faut apporter quelques précisions. Parce que elle l'a raconté elle-même. Elle écrivait sur des papiers qu'une voisine, une fermière, lui donnait. Elle avait quand même... autour d'elle, deux adultes extrêmement bienveillants. Donc cette femme, c'est Dean McKibben et son beau-frère. Et dans le journal, c'est très émouvant, Opal l'appelle le monsieur qui met des foulards gris et qui est bon pour les souris. Parce que l'une des caractéristiques d'Opal, c'est qu'elle nomme non seulement les êtres qui lui sont chers, et surtout les animaux, puisque c'est avec les animaux qu'elle entretient une relation particulièrement forte.
Elle leur donne des prénoms, hein, c'est ça ?
Alors, elle leur donne des noms tirés des livres qu'elle a soit trouvés chez les voisins, soit à l'école, soit des histoires de la mythologie grecque et latine que la maîtresse lui lit, puisque c'était une classe unique. Voilà. Alors donc, ce journal, elle le raconte elle-même, il a été déchiré par l'une de ses petites sœurs qui était très jalouse, lorsqu'elle a eu à peu près 12 ans. Et en fait, quand elle a été une jeune fille, elle a commencé des études, parce qu'elle, comme elle était surdouée, elle a été acceptée à l'université de Eugene.
Ah, d'accord.
Et elle a commencé des études de géologie. Et ensuite, elle a voulu présenter un livre à un éditeur d'une revue culturelle à Boston, Ellery Sedgwick, un livre sur la nature, parce qu'elle donnait des conférences sur la nature aux enfants. Et quand il a vu arriver cette jeune fille tout à fait extraordinaire, il lui a demandé si elle avait écrit autre chose. Et c'est là qu'elle a parlé de son journal, en disant qu'il avait été déchiré en 1000 morceaux, et il lui a proposé de reconstituer le journal. Et là, je redonne la parole à Jacques, parce que c'est au cours de cette reconstitution que des questions se sont posées, que des chercheurs se sont posés, et à l'époque, ça a entraîné une sorte de diffamation de ce journal.
On l'a accusé d'être une faussaire.
D'accord.
Alors qu'il a maintenant été tout à fait établi que, en effet, d'ailleurs, il y a une photo dans nos documents où on la voit, elle, en train de travailler. Le journal avait été déchiré en 1000 morceaux. Les morceaux sont revenus chez l'éditeur. Il les a fait venir. Elle a passé 9 mois à les recoller, à reconstituer son journal. Et c'est là où elle a pu, elle avait 20 ans à ce moment-là, où elle a pu se corriger, réécrire des passages, rajouter des mots. Ouais. Ça, c'est vrai, probablement. Donc, on peut évaluer qu'il y a à 80-90% quelque chose d'absolument authentique et prouvé, puisqu'il y a eu des recherches, même d'analyse chimique des papiers, etc. Les chercheurs, parce que ici c'est inconnu, mais aux États-Unis, comme me l'a dit Aline, il y a vraiment des cercles. Par exemple, à l'université de Boston.
En Oregon.
Il y a vraiment des chercheurs, il y a des admirateurs, il y a des cercles, etc. Il y a des sociétés savantes et des admirateurs qui vont sur sa tombe près de Londres, etc., etc. Ouais. Donc il y a eu des polémiques autour d'elle à plusieurs reprises quand elle a été accusée, ce qui lui a fait beaucoup de mal, d'avoir été une faussaire. Et là, je redonne la parole à Aline pour la suite de l'histoire.
Évidemment, peut-être. On est passionné par l'histoire d'Opal Whiteley, par l'histoire de ce texte. Mais moi, je pense qu'il faut surtout insister sur le texte lui-même. Parce que ça pourrait être un texte sans intérêt, texte d'enfant.
Oui, moi, j'en ai eu que quelques lignes et j'ai dit, tiens, ça ressemble à du taureau. Parce que finalement, il y a des descriptions de la vie de la nature.
Voilà. Il y a vraiment une sensibilité particulière. Il y a une empathie pour les animaux et la nature. Alors, elle avait aussi une soif de connaissance, et puis elle voulait être exhaustive. Et elle avait une mémoire tout à fait extraordinaire. Aujourd'hui, on dirait peut-être, mais avec, je ne veux pas enfermer Opal dans une case, mais elle était peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui autiste Asperger. Elle avait en tout cas des traits communs avec ce genre d'enfant, et aussi une difficulté relationnelle. Et signalons qu'elle a fini sa vie en hôpital psychiatrique.
40 dernières années de sa vie,
oui,
un calvaire, un enfer.
Oui et non. Enfin, malgré tout.
Ouais.
Et donc, dans ce texte, il y a une sorte de poésie qui n'est pas voulue, qui n'est pas fabriquée, parce qu'elle entretient un rapport à la nature, aux animaux, tout à fait extraordinaire. Et puis, ce que moi, j'ai beaucoup aimé dans ce texte, c'est que, bien que j'ai eu une enfance, mais qui n'a rien à voir avec celle d'Opal Whiteley, j'ai eu l'impression qu'elle traduisait des sensations que nous avons tous vécues en tant qu'enfants et que nous n'avons pas consignées. Parce qu'en fait, elle disait « I print » et non pas « I write ». Donc, je consigne, en quelque sorte.
Oui, comme sous la voix d'une comme une dictée intérieure.
Oui, un besoin de fixer.
De fixer.
Et en effet, elle a fixer des sensations que la plupart des enfants Non.
Ouais. C'est-à-dire qu'elle elle a fixé finalement des sortes de premières fois, quoi, c'est ça? Lorsqu'on est enfant, et voilà, on voit telle chose pour la première fois. J'imagine, quoi, une fraîcheur de...
Oui. C'était une mystique, en fait.
C'est une mystique.
C'était une mystique. Elle croyait aux fées, absolument.
Oui, enfin, moi, je dirais... Non. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que là, c'est une enfant. Donc, comme un enfant peut croire au Père Noël. Et elle, surtout, c'est ce que disait l'éditrice, elle a tenu le coup, parce que quand même, elle était maltraitée et incomprise. Ou, disons, incomprise et maltraitée. Et elle a tenu le coup grâce à cette pulsion d'écriture. Et elle s'est construit un monde à part. Un monde où il fait bon vivre, elle le dit d'ailleurs. Parce qu'il y a une joie chez Opal Whiteley, au-delà de la maltraitance, qui est stupéfiante.
Ouais. Est-ce qu'on peut goûter un peu son écriture?
Bien sûr.
Pendant qu'elle l'y cherche, elle appelait son cheval William Shakespeare. Enfin, un cheval qui était là. Et elle avait des relations mais très intimes et très fortes avec tous les animaux, que ce soit une souris, les vers de terre, le cheval, la vache, le veau.
Bon, je vais le lire. Je suis partie à la recherche des fées. Je suis allée dans les bois d'ici. J'ai joué à cache-cache derrière les arbres. J'ai marché le long des troncs d'arbres et je suis arrivée en plein milieu des fougères. J'ai marché sur la pointe des pieds parmi les fougères. J'ai regardé tout partout. J'ai touché les frondes des fougères et j'ai senti leur doux mouvement. Je suis allée à une grosse souche et je m'y suis cachée. J'ai fait comme ça pour attendre les fées qui viennent se promener parmi les grands arbres. Donc là, on a vraiment une écriture d'enfant.
C'est magnifique. C'est bouleversant.
On sent bien que c'est authentique. Alors, il y a des passages...
On la suit pas à pas, oui. On la suit pas.
Les passages à partir de la moitié du livre où là, on peut s'interroger. Bon, il y a une sophistication plus grande. Mais il y a aussi cette capacité à...
S'il y a encore un tout petit peu le temps...
Oui.
Puisque Aline a pâté l'auditeur en disant qu'elle était passée à Chartres.
Oui, oui, pourquoi? Oui, j'ai oublié ce détail.
C'est parce qu'elle s'est fait un roman familial. Elle s'est inventé qu'elle était la fille d'Henri d'Orléans, un célèbre naturaliste de la grande famille des Orléans. Et elle a recherché sa famille, qu'elle pensait être sa vraie famille. Elle pensait être une enfant recueillie par les Whiteley, les bûcherons. Et ça l'a amenée à Chartres. Parce qu'il y avait la duchesse d'Orléans. Et la duchesse d'Orléans l'a reçue. Et elle était tellement fascinante, cette jeune femme, crédible, passionnée, que ça a ébranlé la duchesse d'Orléans, qui a eu des doutes. Elle s'est demandé si, au fond, l'aïeul, Henri d'Orléans, n'avait pas semé sa semence en Oregon. et que Opal Whiteley serait bel et bien une descendante de la famille d'Orléans. C'est un roman familial, ça ne repose sur rien, après enquête par tous ces spécialistes. Mais elle est venue à Chartres.
Elle est venue à Chartres. Alors, bon, il lui faut une rue à son nom.
Et dans le journal, on a une trace de cela, parce que ses parents rêvés les appellent Ange-père et Ange-mère. Donc je peux lire juste un tout petit extrait encore, et après on devra s'arrêter. Aujourd'hui, ça a été une journée où je me suis sentie toute seule. À tous les moments de la journée... J'ai eu envie d'ange-père et de ange-mère. Dans les intervalles de temps, toute la journée à l'école, j'ai écrit des messages pour eux sur des feuilles grises que j'ai ramassées sur le chemin de l'école. J'ai parlé sur les feuilles de l'envie que j'avais d'eux. Sur les feuilles, j'ai aussi parlé de William Shakespeare et de nos conversations quand nous descendons l'allée et des poèmes que je lui dis dans sa mangeoire.
C'est magnifique, hein ? William Shakespeare. On arrive vraiment au terme de cette émission. Il faut absolument que je donne, évidemment, les dates et horaires du spectacle.
C'est vendredi 18 janvier à 20h30 et samedi 19 janvier à 18h au Studio Théâtre de Mainvilliers, dans l'aile droite de la mairie de Mainvilliers, en Eure-et-Loire.
02 37 28 28 20 ou 06 77 82 80 75 pour réserver. J'en redonne un, 02 37 28 28 20. Vous nous avez donné envie de venir vous voir. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci. Merci beaucoup.